Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 17 avril 2023, en direct de Washington, Idrissa Sebulia. Pour commencer les titres, au moins 97 morts et de nombreux blessés dans les affrontements au Soudan entre l'armée et les paramilitaires du général Mohamed Hamdan Dagalo. Le chef de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, va se rendre immédiatement au Soudan, annonce l'UA. Au Burkina Faso, 42 soldats et supplétifs tués dans deux nouvelles attaques dans le nord. Au Sénégal, lancement d'une coalition contre un éventuel troisième mandat du président Macky Sall. Un destroyer américain a navigué dans le détroit de Taïwan, revendiqué par Pékin. Ne manquez pas notre page sport avec Élisée Oumpatine ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Les combats à l'arme lourde ont continué à faire rage dans la nuit de dimanche à lundi au Soudan, où ni l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et ni la puissante Air Force paramilitaire du général Mohamed Hamdan Dagalo ne parviennent à l'emporter. Ces combats ont fait au moins 97 morts et de nombreux blessés depuis samedi, a rapporté ce matin le syndicat des médecins, précisant que ce nombre n'inclut pas tous les morts. Yacouba Ouédraogo.
Alors que les blessés se comptent par centaines depuis le début des combats samedi, selon les médecins, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, annonce que plusieurs des 9 hôpitaux de Khartoum qui reçoivent des civils blessés n'ont plus de sang, d'équipement de transfusion, de fluides intraveineux et d'autres matériels vitaux. Dans la capitale ou dans certains quartiers, l'électricité et l'eau courante sont coupées depuis samedi. Les patients, parfois des enfants et leurs proches, n'ont plus ni à boire ni à manger, alerte un réseau de médecins pro-démocratie. Impossible, ajoute-t-il, de faire partir en sécurité les patients traités, or cela crée un engorgement qui empêche de s'occuper de tous. Et les couloirs humanitaires de 3 heures annoncés dans l'après-midi par les deux belligérants n'ont pas semblé changer la donne. Durant tout ce temps, les bruits des explosions et des tirs n'ont pas cessé à Khartoum. Les FSR, ou forces de soutien rapide d'ex-miliciens de la guerre du Darfour devenus supplétifs de l'armée, tentent depuis samedi de la déloger du pouvoir.
La communauté internationale multiplie depuis samedi les appels au cessez-le-feu. La Ligue arabe et l'Union africaine se sont réunis en urgence. Au Caire, les pays arabes se sont mis d'accord pour condamner les violences et appeler à une solution politique. L'UA a pour sa part annoncé dimanche que le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, est attendu au Soudan pour engager les parties vers un cessez-le-feu. Mohamedou Houmfa.
Exprimant sa profonde inquiétude sur la situation au Soudan, l'Union africaine a également appelé les forces des deux généraux aux commandes du pays à protéger les civils dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion d'urgence du Conseil de paix et de sécurité de l'organisation dimanche après-midi. Ce conseil félicite le président de la commission pour son engagement à se rendre au Soudan pour engager les parties vers un cessez-le-feu afin de faciliter la résolution pacifique du conflit au Soudan. Aucun détail supplémentaire sur cette mission de paix n'était disponible dans l'immédiat.
Au Burkina Faso, au moins 42 personnes ont été tuées pendant le week-end dans des attaques dans le nord du pays. L'armée affirme qu'au moins 70 terroristes présumés ont été neutralisés. De Ouagadougou, notre correspondant, Lamine Traoré.
La dernière attaque hier dimanche a visé le détachement militaire de Kongoussi dans la province du Bam, c'est dans le centre-nord du pays. 2 soldats ont été tués. L'état-major affirme que la riposte a permis d'infliger de très lourdes pertes à l'ennemi et qu'une vingtaine de terroristes ont été neutralisés et 2 militaires ont succombé à leurs blessures. La veille samedi, le camp de volontaires pour la défense de la patrie ou VDP, situé à une quinzaine de kilomètres de Ouaigouia, dans le nord, a été attaqué. Selon l'état-major, l'attaque a fait 40 morts, des supplétifs de l'armée, plus des militaires et 50 présumés terroristes. Le gouverneur de la région avait déjà confirmé le bilan de cette attaque peu après l'appel des autorités à la mobilisation générale des Burkinabés pour lutter contre les groupes djihadistes. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Sénégal, plus de 100 organisations politiques et de la société civile ont lancé dimanche à Dakar une coalition pour faire barrage à un éventuel troisième mandat du président Macky Sall à 10 mois de l'élection présidentielle John Lennon.
Le mouvement des forces vives du Sénégal, F24, en référence à la présidentielle prévue en février 2024, a été lancé en présence de plusieurs chefs de l'opposition, dont Ousmane Sonko. La coalition est formée notamment de partis, d'organisations de la société civile et de personnalités indépendantes. Elle vise le respect par le président Macky Sall de la Constitution et de la parole donnée et son renoncement à présenter sa candidature pour un troisième mandat qualifié d'illégal et illégitime selon une déclaration publiée dimanche. Dans un entretien publié mi-mars par le magazine français L'Express, Macky Sall, élu en 2012 et réélu en 2019, a maintenu ouverte la question de sa candidature en faisant valoir que seuls des facteurs politiques et non constitutionnels l'empêcheraient de se présenter.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président brésilien Luiz Inácio da Silva, dit Lula, a indiqué hier avoir discuté avec la Chine et les Émirats arabes unis d'une médiation conjointe dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, accusant les États-Unis et l'Europe de prolonger le conflit. Précision de Gabi Dorsil.
Lula s'exprimait au cours d'une conférence de presse à Abu Dhabi au terme de visites officielles aux Émirats arabes unis et en Chine, souhaitant que ces deux pays et d'autres rejoignent ce qu'il qualifie de G20 politique pour tenter de mettre fin à la guerre déclenchée par l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. La guerre a été provoquée par des décisions prises par deux pays, a jugé le président brésilien. L'Europe et les États-Unis continuent de contribuer à la poursuite de la guerre. Alors ils doivent s'asseoir autour de la table et dire « ça suffit », a-t-il souligné. En Chine, le président brésilien avait accusé Washington d'encourager la guerre en Ukraine. Lula a dit avoir suggéré au président des Émirats arabes unis et au président chinois la création d'un groupement de pays qui aurait pour mission de jouer les médiateurs. Lula a souligné avoir déjà discuté de son initiative avec plusieurs leaders, y compris le président américain Joe Biden.
Le destroyer américain USS Milius a navigué dimanche dans le détroit de Taïwan, revendiqué par Pékin, a annoncé la marine américaine une semaine après de vastes exercices militaires chinois dans la même zone. L'USS Milius a effectué un transit de routine dans le détroit de Taïwan dimanche, a indiqué la marine américaine dans un communiqué, dans des eaux où la liberté de navigation et de survol en haute mer s'applique conformément au droit international. Le navire a transité dans un corridor dans le détroit situé au-delà de toute mer territoriale d'un État côtier, ajoute le communiqué. Pékin a indiqué lundi avoir surveillé le passage d'un navire de guerre américain dans le détroit et accusé Washington de faire du battage médiatique autour de la présence de son destroyer. Les forces chinoises dans la zone maintiennent en permanence un haut niveau d'alerte et défendent avec détermination la souveraineté et la sécurité nationale, ainsi que la paix et la stabilité régionale, a affirmé Xi Yi, un porte-parole de l'armée. La semaine dernière, l'USS Milius avait navigué à proximité des îles Spratlys, également revendiquées par Pékin en mer de Chine méridionale. Le gouvernement chinois avait dénoncé ce qu'il avait appelé une intrusion illégale. Ici aux États-Unis, au moins 4 personnes sont décédées et une vingtaine d'autres, majoritairement des adolescents, ont été blessées lorsqu'un tireur a ouvert le feu durant une fête d'anniversaire dans une ville du sud du pays, quelques jours après un drame similaire dans une banque du Kentucky. C'était samedi soir à Dadeville, petite localité de l'Alabama. Les autorités locales n'ont pas dit si un suspect était en garde à vue. Le président Joe Biden a regretté dans un communiqué que l'Amérique soit une nouvelle fois endeuillée par des tirs. la Minute Éco, Nathalie Barge.
Le gouvernement camerounais va soutenir le prix de 50 000 tonnes d'engrais cette année grâce à une subvention de 14 milliards de francs CFA pour soulager les agriculteurs confrontés à la flambée des prix des intrants. Selon un rapport de l'Institut national de la statistique sur le commerce extérieur, le Cameroun a enregistré une augmentation de ses dépenses d'importation d'engrais de plus de 43% entre janvier et septembre 2022. La République du Congo a prévu un budget de plus de 22 millions de dollars pour l'accès à Internet et aux services numériques en 2023. Il s'agit notamment de développer la connectivité à haut débit dans des universités, bâtiments administratifs et des zones enclavées. L'offre de certains services numériques aux populations sera améliorée. Cette initiative fait partie d'un projet sur 5 ans soutenu par la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement et l'Union européenne pour un total de 140 millions de dollars. Le programme alimentaire mondial a lancé la deuxième phase de son programme d'assistance alimentaire aux déplacés togolais et burkinabés et autres populations vulnérables de la région des savanes et de la Kara dans le nord du Togo. Cette opération qui durera jusqu'au 25 avril comprend une aide financière de 40 000 francs CFA par personne et la distribution de farine enrichie pour les enfants de 0 à 2 ans.
Merci Nathalie. Les sports à présent avec Élisée Oupatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Handball pour démarrer à partir de demain et ce jusqu'à samedi. Bamako accueille le challenge trophée de handball des moins de 18 et 20 ans chez les filles.
Oui, un tournoi auquel 9 pays prendront part afin de redynamiser la discipline au Mali. On retrouve notre correspondant sur place à Bamako, Siaka Traoré.
Les 9 pays qui prendront part à ces tournois sont le Mali, pays hôte, le Cap-Vert, la Mauritanie, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Maroc, le Sénégal et la Sierra Leone. Chaque pays sera représenté par 2 équipes, U20 et U18 filles, ce qui fera environ 300 athlètes. Pour le président de la Fédération malienne de handball, colonel Cheikh Tunkara, le challenge trophée de handball est d'une grande importance pour le Mali.
Rien ne sert de s'entraîner toute une année et avoir des compétitions de 2 jours, 3 jours et c'est fini. Offrir plus de compétitions. Il fallait aussi chercher les compétitions internationales.
Il s'agit de relancer le handball dans un pays, le Mali, qui ne jure que par le football et le basketball, selon colonel Modibo Namantraoré du ministère malien des sports.
C'est un challenge et un double défi pour la Commission nationale d'organisation. Il s'agit de réussir non seulement les paris de l'organisation, mais surtout les défis sportifs.
Ce n'est pas tout à en croire colonel Cheikh Tunkara, président de la Fédération malienne de handball.
C'est une grande prouesse, une façon de montrer que le Mali est un pays ouvert au monde. Le Mali n'est pas un pays isolé, n'a jamais été isolé, ne sera jamais isolé. C'est un moyen aussi de montrer l'hospitalité malienne.
En plus de la compétition, Bamako sera le lieu pour la Confédération africaine de handball de fêter cette année ses 50 ans. Siaka Traoré, Bamako, pour VOA Afrique.
Football à présent et dans les coulisses, la CAF a annoncé la suspension de l'arbitre du match Bénin-Rwanda.
Joshua Bondo est son nom, d'origine botswanaise, écarté 6 mois pour avoir oublié d'enregistrer le carton jaune adressé à Kevin Mouéré pendant la 3e journée des éliminatoires de la CAF de 2025. Erreur qui a permis au milieu rwandais de disputer la 4e journée face aux mêmes béninois alors qu'il aurait dû être suspendu. Et ses adjoints, eux, ont écopé de 3 mois. A noter que le Bénin a déposé un recours pour prendre les points du match.
Duel au sommet de la 24e journée de la Ligue 1 en Côte d'Ivoire.
Et c'est l'ASEC d'Abidjan qui sort vainqueur 2-0 sur le Sporting Club du Gagnoa. Les Mimos, avec 44 points pour 22 matchs joués, partagent la première place avec les militaires de la SOA qui ont disputé 24. Gagnoa est 3e avec 40 points. Et puis au Sénégal, Diemba, vainqueur 2-1 de Tengut, sécurise sa place de leader avec 34 points, 2 de plus que Génération Foot qui a battu Stade Mou 3-1.
Pendant ce temps, on jouait la Coupe de l'Indépendance au Togo avec les quarts de finale.
Et ça passe pour les pensionnaires de 2e division, Koroki et Digenti, qui ont éliminé respectivement au tir au but AS Vina et Asco de Kara. En demi-finale, ils affronteront la SCK, vainqueur 4-0 de Maranatha et Dito, tombeur de Doumbé de Mango.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le syndicat des enseignants du Tchad, section de la province du Mayo-Kébi-Ouest, reconduit sa grève perlée pour 3 jours à compter de jeudi prochain. Une grève pour exiger la libération d'une dizaine d'otages, dont une jeune élève en classe de terminale, retenue contre rançon par de malfrats présumés. Notre correspondant à N'Djamena, André Kodmadjingar, fait le point.
Après 3 jours de grève d'avertissement, les enseignants de la province du Mayo-Kébi-Ouest constatent avec regret que les autorités ne font rien pour obtenir la libération des personnes retenues par les présumés ravisseurs. Descend Doué est le secrétaire général du syndicat des enseignants du Tchad, section de la province du Mayo-Kébi-Ouest.
En ce qui concerne l'évaluation de la grève d'avertissement, nous avons trouvé que les enfants sont toujours entre les mains des ravisseurs et nous avons reconduit encore une grève de 3 jours en comptant du jeudi à samedi, parce qu'on ne peut pas cumuler ensemble avec la grève nationale qui absorbe déjà la nôtre, comme nous voulons nous faire entendre également. Toute la semaine, nous allons être en grève et nous allons évaluer si les choses sont au bon point. Sinon, il faut encore continuer tant que nos autorités ne bougent pas.
Si les otages ne sont pas libérés, une marche pacifique sera organisée ce mardi 18 avril, informe le syndicaliste Descend Doué au micro de VOA Afrique.
Nous avons demandé aux camarades de sortir massivement pour cette marche pacifique, une marche citoyenne, une marche sans violence. Il faut enlever la peur là. Nous ne voulons ni la présidence, nous ne voulons ni le gouvernorat, ni la préfecture, mais ce que nous voulons là, libérer des otages, que la paix règne dans le Mayo-Kébi-Ouest.
Pour le président de l'Union des démocrates pour le développement, Digbo Hubert, dans certaines localités de la province, les portes des établissements scolaires sont fermées pour des mesures de sécurité.
Dans une partie de la sous-préfecture de Lamé et dans le département de Nanay, les enseignants ont vidé, les chefs d'établissement scolaire ont quitté, les enfants ne peuvent plus aller à l'école. Comme les gens viennent opérer dans la journée, alors l'année scolaire est déjà terminée. Et non pas seulement ça, il y a un déplacement massif de la population de la sous-préfecture Lamé et surtout d'une partie de la zone de Gagal vers le Cameroun voisin pour trouver une certaine quiétude.
Profitant de l'installation du nouveau gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Ouest, le ministre en charge de la sécurité publique et son collègue de l'administration du territoire trouvent inconcevable cette situation qui, selon eux, découle de l'amateurisme et du laxisme des responsables sécuritaires de la province.
Le gouvernement, ne pouvant rester insensible à cette situation, a cru devoir prendre d'autres mesures de réajustement qui devraient permettre de restaurer la quiétude, la paix, la sécurité au niveau de la province du Mayo-Kébi-Ouest.
L'imam Mahamat, ministre en charge de l'administration du territoire, ainsi donc tous les responsables sécuritaires qui ont mis plus de temps dans la dite localité sont relevés de leurs fonctions. Mahamat Sharfadin Margui reconnaît lui aussi que le service de sécurité a failli dans cette province.
Franchement, il est inconcevable qu'avec tous ces dispositifs mis en place, n'arrive pas à éradiquer ces petites délinquances que j'appelle criminalité ordinaire, qu'on n'arrive pas à éradiquer. J'espère qu'avec cette nouvelle équipe, les défis seront relevés.
Toutes les structures sécuritaires de la province du Mayo-Kébi-Ouest ont des nouveaux chefs avec des consignes fermes de traquer les présumés ravisseurs jusqu'à leur dernier retranchement. André Kodumadjingar, N'Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Togo, la ville côtière d'Agbo-Drafo, dans le sud du pays, a été au 19e siècle une plaque tournante du commerce des esclaves. La maison des esclaves est encore là pour en témoigner. Mais pour combien de temps encore? Les travaux de réfection annoncés tardent à se concrétiser. De Lomé, notre correspondant Kossi Woussou.
Dans la grande cour de la maison Wood à Agbo-Drafo, lieu de vente des esclaves au XVIIIe siècle au Togo, une centaine d'élèves de la localité suivent religieusement un documentaire relatant l'histoire de cette maison des esclaves. À la fin de la projection du film et des échanges, les enfants se sont confiés.
La séance qui s'est passée sur site m'a beaucoup plu parce qu'on nous a fait fréquenter la maison de l'esclavage. Nous avons vu le trou dans lequel on cachait nos grands-pères et je vois que ce n'est pas bon.
Je m'appelle Nomania Honorine, je fais la quatrième au collège du littoral. La séance d'aujourd'hui m'a beaucoup plu et d'avoir écouté les histoires du passé, de connaître la maison des esclaves que je n'avais jamais connue d'avant et de connaître l'histoire de nos grands-parents, ce qu'ils ont vécu.
Pour Gastien Poti-Messant, le conservateur de la maison des esclaves d'Aboudrafort, l'histoire de ce lieu qui servait à l'esclavage clandestin est importante à raconter aux enfants.
Aujourd'hui, nous devons rappeler la grande partie de l'histoire cachée aux jeunes, que ces jeunes soient vraiment informés de ce qui s'est passé à l'époque. On a retrouvé beaucoup d'objets qui sont là, le lit du patron des esclaves, les chaînes d'ancrage et les canaux du dernier bateau, la canne d'abolition de l'esclavage, ce qui prouve effectivement que quelque chose a eu lieu à Baudrefort ici.
À la mairie de la localité, on se réjouit du regain d'intérêt pour ce lieu symbolique de la traite négrière. Pour Bismarck Tété, conseiller municipal de la commune Lac 3, au-delà de l'aspect historique, la maison des esclaves d'Aboudrafort peut être un tremplin économique pour la municipalité.
Cette maison aujourd'hui porte déjà très haut le nom de notre cité Aboudrafort ainsi que de notre commune de Lac 3. Aujourd'hui, ça peut se classer dans le tourisme. Et le tourisme, nous savons très bien que c'est un facteur de développement. Et si on s'organise bien autour de cette maison, ça peut être même encore une autre source de revenus pour notre commune.
Une organisation plus que nécessaire. Les années qui passent abîment de plus en plus l'édifice et les installations. Gasquin Poti-Messant, le conservateur de la maison des esclaves d'Aboudrafort.
Depuis 2006, l'État togolais a enclenché le processus de restauration de cette bâtisse afin d'en faire un musée. Mais jusque-là, il faut dire que l'État travaille avec l'UNESCO pour voir dans quelle mesure établir ce programme-là pour que cette maison soit totalement restaurée.
La maison des esclaves d'Aboudrafort, ce haut lieu de mémoire pour les Togolais, en a vraiment besoin. Kossi Oussou, Lomé, pour VOA Afrique.
Une tradition en perte de vitesse, c'est l'objectif du festival Leali El Med, ou le gospel mauritanien, un événement organisé chaque année durant le mois de Ramadan par le Centre mauritanien des arts populaires. Nous en sommes à la 10e édition. Notre correspondant sur place, Mohamed Diop.
Chanté jadis par des bergers esclaves derrière leurs troupeaux, le maître est un genre poétique à forte dimension spirituelle, à l'image du gospel afro-américain.
Mohamed Oubousidi, chercheur au Centre mauritanien des arts populaires.
Il chante exclusivement le prophète. Il compte aussi des invocations pour se rapprocher davantage de Dieu.
Ce concentré de l'art populaire traditionnel est aujourd'hui jalousement conservé par la communauté arabe. Descendant d'esclaves, comme dans l'ancien temps,
Mohamed Oubousidi.
Derrière son troupeau, l'esclave profitait d'un moment de solitude pour chanter quelques couplets de Médès.
Mais le style classique dans lequel se déclamait l'éloge du prophète Mohamed ne subjugue plus la nouvelle génération d'artistes. Alors, pour conserver cette tradition plus que séculaire, a été lancé le festival Leali El Madj avec des soirées d'éloge aux prophètes.
Amari Atma, directeur des programmes au Centre des Arts Populaires.
Cet art a commencé à disparaître petit à petit. On s'est dit que c'est une obligation morale le fait de le conserver et d'y travailler. Donc c'est notre objectif général, c'est-à-dire conserver cet art et essayer d'aider les pratiquants de cet art en Mauritanie. C'est pourquoi on a mis en place le festival.
Au rythme des claquements de mains et des percussions, les voix des artistes s'élèvent jusqu'au ciel pour pénétrer le cœur de l'assistance. La tentation de la modernisation de ce genre traditionnel aux sonorités religieuses émouvantes semble porter ses fruits, avec une forte présence de la jeunesse en plein mois de Ramadan. Ce qui rajoute à l'événement une double dose de spiritualité. On chante du sacré, on tire les bénédictions du mois sacré.
Ce festival mérite d'être soutenu financièrement, techniquement et promu parce qu'il fait la promotion des arts populaires.
Le projet du festival ambitionne de faire perdurer ce genre poétique en Mauritanie et au-delà de ses frontières. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Marche.
This is the voice of America. Washington, D.C.
La récente fuite de renseignements militaires classifiés du Pentagone met en lumière l'inquiétude des États-Unis face à l'influence de la Chine et de la Russie en Afrique. Un document en particulier décrit les plans des services de renseignement russes visant à créer des théories de conspiration dans l'espoir d'influencer l'opinion publique africaine en faveur de la Russie. Carole Van Damme de la VOA a interrogé à ce sujet Jennifer Cook, directrice de l'Institut d'études africaines et professeure associée d'affaires internationales à l'Université George Washington. Le récit est de Lionel Gahima.
Si les inquiétudes concernant les grands projets chinois en Afrique datent de longtemps, la Russie, elle, procède de manière moins visible, plus subtile, mais pas moins efficace, explique Jennifer Cook.
And Russia has kind of crept up more quietly through much more kind of subtle ways of influence.
La Russie y est parvenue grâce à des campagnes de désinformation en identifiant les fissures au sein de la société, les ressentiments existants, puis en s'appuyant sur eux, comme elle le fait ailleurs dans le monde, y compris aux États-Unis, en attisant le sentiment à l'égard des Français en raison du colonialisme et des vestiges de l'impérialisme.
De l'avis du professeur Cook, les Russes sont très habiles à identifier des soupçons préexistants, notamment ceux datant de la guerre froide.
And so the Soviets back in the Cold War were pushing the narrative that the US had created HIV, for example.
Ainsi, les Soviétiques à l'époque de la guerre froide prétendaient que les États-Unis avaient créé le VIH, par exemple, et lors de la crise du Covid, que les États-Unis utilisaient des armes biologiques pour propager le coronavirus.
L'influence chinoise grandissante sur le continent africain est une réalité, souligne Jennifer Cook de l'Université George Washington.
Les États-Unis reconnaissent que la Chine a pris de l'avance sur eux en termes d'engagement commercial en Afrique. Et cet engagement commercial est en quelque sorte la clé de la pertinence politique et de l'interdépendance économique.
Pour le professeur Jennifer Cook, l'invasion russe en Ukraine a donné un nouvel élan aux efforts russes de manipulation des opinions.
La Russie essaie de gagner des pays et des alliés pour, vous savez, soutenir ou au moins ne pas condamner l'invasion de l'Ukraine, par exemple.
Tout cela intervient alors que s'opère un chamboulement de la géopolitique mondiale, souligne le professeur Jennifer Cook de l'Université George Washington. À preuve, dit-elle, l'Arabie Saoudite et d'autres cherchent à modifier l'équilibre de pouvoir et à créer une sorte de nouveau bloc qui peut rivaliser, s'opposer ou même l'emporter sur le bloc occidental traditionnel.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde de Georges Léonard Stagno, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique. We'll be right back.